Cascodeur Podcast, épisode 270. Interview de Nicolas Deloff sur Docker Compose. Enregistré le 17 décembre 2021.
Pour soutenir les Cascodeurs, allez sur patreon.com/lescascodeurs. Merci à vous. Bonjour et bienvenue au Cascodeur. Nous sommes ensemble pour une interview et on va parler d'une technologie qui s'appelle Docker Compose, ou d'un produit qui s'appelle Docker Compose. On va voir un peu le détail. Je suis avec Antonio.
Hello tout le monde.
Expert front et expert Docker Compose alors.
C'est expert ça Docker Compose. Ouais. Je vous dirai ma petite phrase tout à l'heure. Là. J'ai une super phrase pour Docker Compose. Okay.
Tu fais ton Guillaume, tu
prépares tes plans. Non, mais je dirais ça tout à l'heure.
Ok, non, en vrai, on a Nicolas Deloff qui nous rejoint.
Salut.
Hello, pour discuter de ça, parce qu'il travaillait chez Docker jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, avant de passer chez
Docker Lib.
Docker Lib. c'est à peu près ça. Ouais, des fois, ça m'arrive encore de me confondre dans les acronymes, parce que donc Doctolib, en interne, tout s'appelle Docto quelque chose, et des fois, je commence à écrire D-O-C-K et puis ça part en vrille, quoi.
Ouais. Je tendrai à réfléchir. T'as la doctocantine, la docto.
C'est quasiment ça.
Et ouais. La doctomobile.
Ouais, ouais, on a la doctocave avec.
Ouais, avec c'est... les
avec
serveurs.
Du doctovin, des doctobouteilles de vin.
Ok. Alors, bon, on va faire le truc classique, petite intro à la techno en 2 minutes, parler des concepts, et puis ensuite on va aller zoomer sur la pratique de dev et puis un peu ce qu'il y a sous le capot. Donc bon, déjà.
Et avant, on commence par présente oui. Nicolas et puis pourquoi il est là pour parler de Docker Compose.
Absolument. Bah la section était pas là, je l'ai oubliée.
Mais oui, je l'ai eu. En fait. Alors je me suis dit mais non, t'as vu ton œuvre, Nicolas.
Ouais. Oui, parce que figurez-vous que cette interview est préparée avec un agenda et tout, et bon, ça permet de savoir qu'il y en a au moins un qui l'a lu. Donc ma vie, mon œuvre, et ben moi, ça fait un moment que je traîne mes bases dans l'outillage de développement. J'ai bossé pendant 8 ans chez CloudBees où j'ai fait plein de trucs autour de Jenkins. Donc si vous êtes en train de vous prendre les pieds dans un Jenkins file, c'est en partie ma faute. Ensuite j'ai passé 2 ans chez Docker. J'ai bossé essentiellement sur des sujets autour de Compose. Moi c'est ce qui me plaisait, donc ça tombait assez bien. Et puis du coup on va en reparler aujourd'hui. Et puis, du coup, j'ai rejoint Doctolib il y a 2 mois, pas spécialement parce que j'avais plus envie de faire du Docker, mais j'avais envie d'essayer autre chose. J'ai eu une opportunité pour découvrir le monde Ruby et une entreprise un peu plus franchouillarde. C'est vrai que je trouve ça pas désagréable, en fait, à partir de 7h du soir, de plus avoir de questions sur Slack. Ça, c'est pratique pour la vie de famille aussi. Voilà, donc...
T'oublies quelque chose, Nicolas, là. T'oublies quelque chose. Et les quoi de neuf, Doc?
Ah ouais, bah parce que avant tout ça, effectivement, j'ai passé quelques heures à faire du montage vidéo puisque je suis passé Docker Captain grâce à une chaîne YouTube où je faisais la série quoi de neuf Docker, où je me suis bien fait plaisir. Et puis le problème, c'est que j'ai commencé à être exigeant sur mon propre rendu et ça a commencé à déraper en termes de temps de production, on va dire. Donc du coup, les vidéos sortaient très 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 lentement et ça devenait presque pénible à enregistrer parce que je me reprenais 15 fois avant d'être content du résultat. Donc j'ai fini par tourner la page.
Moi, donc, j'étais voilà. Fan. C'est vrai que c'était un format, t'en avais un peu parlé, comme y penser. Et c'est vrai que c'était vachement bossé, quoi. Il y avait plein de coupures, des animations et tout. Enfin, moi, j'étais super fan et ça m'a permis de découvrir Docker grâce à ça. Voilà. Donc, quoi de neuf, Doc?
Cool. Bon, bah, on va passer à la techno, du coup.
Alors, la techno.
Non, d'abord, pour ceux qui vivent pas vraiment dans cet univers-là, qu'est-ce que c'est Docker en 1 minute?
En 1 minute. Oh. Alors Docker, c'est un moyen de lancer des applications, tout simplement, en gros des process, hein. Mais au lieu de s'imaginer qu'on a un runtime magique qui te dit que tu code once et ça run anywhere, et ben en fait on te dit, ben en fait on va prendre le process Linux, celui que tu veux faire tourner sur ta machine de prod, et on va te donner un moyen simple pour le faire tourner chez toi, tout pareil, à peu près tout pareil. Donc c'est le genre de choses qu'on a fait à une époque avec des machines virtuelles, du Vagrant, des machins comme ça. Et là, c'est une technologie qui permet de le faire de manière beaucoup plus légère, entre guillemets. C'est-à-dire que bon, ça démarre tout seul en quelques millisecondes. Et du coup, on peut faire joujou avec tout plein de services, depuis son propre code à soi. Et puis évidemment, avoir des trucs sur étagère, genre une base de données, un Redis, un truc, un Elasticsearch. Docker run Elasticsearch, t'as un Elasticsearch, t'as pas besoin de réfléchir. Ouais. En fait, c'est une façon de se débrancher le cerveau un peu.
Ouais. Bah alors, si c'est si super, alors Docker Compose, ça sert à quoi?
Attends, avant ça.
Ah, l'autre, comment il brûle les étapes.
Et avant ça, je voulais dire, parce que là, tu t'as fait un petit shot là, à Java, genre write once, run anywhere. Mais maintenant qu'on n'a plus le même processeur partout et que ça commence à avoir ARM, x86 et tutti quanti, en fait, c'est. C'est write once, run somewhere.
Alors c'est vrai que ouais, ça c'est clairement une problématique qu'on pensait derrière nous depuis que Intel avait imposé l'architecture 8086 partout. Et puis voilà, on a ARM qui vient remettre ce sujet au goût du jour. Alors les images Docker ont cette bonne idée d'être multi-architecture, enfin, c'est-à-dire que pour la même référence, on a plusieurs versions. Du soft qui est censé être donc la même le même commit dans le code, mais qui a été compilé pour les différents types d'architecture. Et donc quand on fait un Docker run Elasticsearch, et ben théoriquement ça va récupérer soit la version ARM soit la version AMD64 selon la plateforme qu'on a. Donc on garde cette tranquillité d'esprit entre guillemets. Maintenant évidemment, bah pour ceux qui utilisent Docker Desktop, il y a un peu de magie avec du QEMU, des choses comme ça pour permettre de faire tourner une image ARM sur du pas ARM et réciproquement et choses comme ça, avec évidemment toujours le risque qu'on tombe sur des coups un petit peu tordus, et donc il faut pas non plus trop croire au Père Noël dans ce genre de situation, donc il vaut mieux rester raisonnable.
Donc effectivement, donc Docker, t'as dit on fait tourner une appli, donc un process, et du coup Docker Compose, ça fait quoi?
Alors, ce qu'il y a dans Docker Compose, c'est en fait un constat, c'est que bon voilà, Docker run mon appli, c'est sympa. Docker run mon appli qui se connecte à ma base de données et qui monte mon répertoire où j'ai mes données et qui se connecte à mon Redis et qui se connecte à mon Elasticsearch, mais qui doit attendre que Elasticsearch soit démarré. Bah ça se fait, hein, mais ça fait une très 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 longue ligne de commande. Donc l'idée de Docker Compose. Alors à l'époque c'était Fig, c'est un projet qui avait été développé indépendamment en fait de la société Docker, à l'époque où la communauté explosait dans tous les sens avec des idées de partout. L'idée c'était vraiment ça, c'est de se dire voilà, c'est vraiment chiant d'avoir des lignes longues comme le bras avec plein de paramètres, de devoir créer les conteneurs dans un certain ordre. Donc en fait ils ont écrit ça de manière déclarative dans du YAML. Et l'outil est capable de dire bon ben voilà, pour démarrer le conteneur, je passe tous ces arguments là et j'attends que sa dépendance soit prête pour démarrer le conteneur suivant. Je partage des volumes, je partage des réseaux, j'expose des ports, des choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'il y a eu plein d'usages assez détournés de ces fonctionnalités ça. De ces fonctionnalités là avec un L. C'est des gens qui se rendent compte que des fois ils ont juste à lancer une seule commande, Docker run migration de base de données par exemple. Et là, c'est pareil, t'as plein d'arguments, c'est pénible. Donc du coup, ils l'ont mis aussi dans du Compose. Donc on a vraiment deux use cases de bien identifiés sur Docker Compose. Le premier, c'est de démarrer une application composite, bah, d'où le nom d'ailleurs. Et le deuxième, bah, c'est une espèce de makefile pour Docker, en disant bah, tu peux démarrer juste un conteneur qui va exécuter une tâche et se terminer. Et là, c'est Docker Compose Run. Et en fait, il s'avère que c'est très très utilisé par plein de gens pour des cas très variés en fait sur le. J'ai découvert énormément de choses en tant que mainteneur, parce que justement sur les issues Compose, on a des gens qui nous demandent des choses. Faut se creuser la tête juste pour comprendre ce qu'ils essayent de faire, et puis on se dit ah bah oui tiens, mais ça j'avais même juste jamais pensé quoi. Ils sont créatifs.
Et ça c'est plus simple qu'un bash qui garde la longue ligne de commande, parce que c'est quoi, c'est plus structuré peut-être le YAML.
C'est exactement ça, c'est que t'as quelque chose qui est plus structuré. Là, je prenais l'exemple d'une migration de données, justement, sur une base de données. Et là, c'est vraiment intéressant, parce que tu vas avoir la même définition pour ta base de données lorsque tu utilises dans ton appli et lorsque tu veux la référencer parce que tu exécutes une migration. Donc tu partages cette définition. Donc tu as vraiment un truc qui est un petit peu entre les deux. Et puis comme tu le dis, tu as une définition qui est structurée, qui t'évite d'avoir un script bash avec des anti-slash à la fin de chaque ligne pour faire un retour chariot, parce que sinon c'est illisible, enfin, ce genre de choses-là, quoi.
Non, et puis l'exemple que tu donnes là, c'est l'application qui a besoin de la base de données. Moi, au tout début, je m'étais fait avoir, peut-être comme beaucoup, hein, où en gros, je mettais une application, une base de données, puis ça marchait jamais, parce que le temps que la base de données démarre, l'application avait démarré, elle trouvait pas la base de données. Et en fait, c'est suffisamment riche pour dire la base de données, l'application dépend de la base de données, qui elle-même dépend de machin, avec quelques checks, et c'est plutôt pas mal en fait. Avec une commande, bah tu sais que la base de données, elle démarre, quand elle est prête l'application démarre, et quand l'application est prête le truc démarre, etc. Et quand tu arrives sur un projet, c'est quand même hyper pratique, puisque en tant que dev t'exécutes juste une commande et le truc il vient démarrer 5 containers dans l'ordre et ça marche.
Oui, c'est exactement ça en fait. C'est un outil qui a été conçu pour les développeurs. Il y a quelque chose pour l'illustrer qui est flagrant, c'est quand tu définis un volume, donc un endroit où tu vas stocker tes données, si tu redémarres ta stack, typiquement t'as changé du code, t'as refait ton image Docker, enfin tu relances, et en fait automatiquement il va se dire, ah bah oui mais ce conteneur-là il existait déjà avant et ces données elles étaient à tel endroit, donc il récupère les données, ce qui fait que tu vas avoir un reload de ton application. Sans le code a été changé, les données sont les mêmes, sans avoir besoin de te demander mais comment on fait en fait pour récupérer les volumes qui étaient là avant et ainsi de suite. C'est là par contre en bash ça serait un peu compliqué à faire. Donc ça c'est pris en charge par l'outil parce que c'est vraiment des use cases très bien identifiés en termes de d'assistance aux développeurs.
Alors Docker Compose c'est que pour le dev alors ?
Alors pendant longtemps c'était ce qui était marqué dans la doc. C'est un outil de dev, utilisez pas ça en production. Et puis en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui l'utilisent aussi en production. Parce que en fait, ça fait le boulot, quoi. C'est toujours pareil, en fait, on vit aujourd'hui dans un univers où tout le monde veut faire du Kubernetes parce que tout le monde fait du Kubernetes. Et puis en général, les gens commencent à se dire, oula, mais ça fait quand même beaucoup de YAML à écrire, là, c'est ouhou. C'est typiquement là où on voit la différence. Et le niveau d'abstraction, c'est ce que tu dis, Antonio. Le niveau d'abstraction qu'on a dans un Docker Compose, quand tu dis machin dépend de truc, bah tu dis machin dépend de truc. Bon, tu le dis en YAML, désolé, mais tu dis pas grand chose de plus, quoi. Si tu veux faire la même chose dans un univers Kubernetes, on va te dire ah ouais, mais c'est plus subtil que ça parce que ton application elle peut être démarrée, mais elle peut être sur un autre nœud, puis elle peut être load balancée. Donc tu peux pas l'exprimer comme ça. Faut que tu mettes du service mesh qui va rerouter. Et donc à la fin, quand t'as fini tes 400 km de YAML et tes 3 outils que t'as installés, t'arrives à démarrer ton appli et ta base de données, t'es content. Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est ce qui est génial avec Kubernetes, c'est qu'en bout de deux jours, t'as fait Hello World, t'es vachement fier de toi.
Alors moi, ma petite catchphrase, c'est Docker Compose, c'est le Kubernetes du pauvre. À chaque fois, je dis ça parce que c'est vrai que quand même, en quelques lignes, ça marche, quoi.
Bah, c'est un peu ça. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui utilisent ça pour de la prod parce que ils n'ont pas ces problématiques de haute dispo. Ils veulent juste effectivement avoir un conteneur qui tourne, que ce soit facile de le redémarrer. Et puis c'est à la rigueur c'est même mono-nœud, quoi. C'est toujours pareil, c'est une question de criticité de ce que tu fais tourner, hein. Et juste ça leur suffit.
J'ai plusieurs questions en fait qui me sont venues dans l'idée, dans la tête là pendant que je pouvais pas parler. La première c'est que c'est Docker Compose, ça s'exprime les choses de manière mono-nœud. Ça a pas ambition de travailler sur du multi-nœud ou ça peut.
Alors voilà la bonne question qui va nous occuper un petit moment. Il y a eu une époque.
Alors, attends, je vais faire l'autre question alors avant.
Ah ouais, c'est bon.
Celle-là va nous occuper un petit moment. L'autre, c'est à un moment t'as parlé. Bah, je dis que je dépends de ma base de données avant de démarrer. Et en fait, dans Kubernetes, il y a la notion de health check, de readiness probe, etc. Et donc t'en as deux, t'as genre t'es là et tu acceptes d'avoir du trafic. Et du coup, Docker Compose a aussi ces concepts-là et va aller taper dans les.
Alors Docker Compose utilise des concepts qui sont dans le Docker Engine, qui sont uniquement le S-check. Il n'y a pas de notion de readiness, il n'y a pas cette distinction qui est parfois un peu subtile. Enfin, là, c'est vraiment, c'est en gros, ton application, elle est là, elle est prête, elle est contente et ça, on ne cherche pas à affiner exactement ce que ça veut dire. Et effectivement, dans Docker Compose, on peut dire je dépends d'un service, mais j'en dépends quand il a atteint cet état healthy, qui peut mettre pas mal de secondes à arriver. Et donc, c'est vrai que du coup, quand tu vas faire Docker Compose up, l'application va mettre un certain temps à démarrer le temps que ce statut soit confirmé, mais au moins, tu ne te poses pas la question de dire lorsque mon code va chercher à se connecter à la base de données, il faut qu'il gère le cas que peut-être ça marche pas et donc il réessaye. Ce qui est pourtant un bon pattern hein, en termes de développement, on est bien d'accord. Mais des fois, tu as la flemme, hein, clairement. Donc, c'est pas ta priorité en termes de design d'application.
D'accord. Alors, mononœud, multinœud.
Alors, le multinœud, donc... Initialement, ce que je disais, en gros, Docker Compose, c'était tu prends la command line Docker et tu l'écris en YAML. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre les flags les uns derrière les autres, tu les mets les uns dessous les autres. En prenant bien soin d'intenter avec 4 caractères et pas avec 2,5.
L'OPM, il s'est pas trop fait chier hein, quand il a défini le truc.
Ouais, mais n'empêche, c'est l'idée est simple, mais ça rendait bien service. Et puis, bon, après, ils se sont rendus compte que, bon, effectivement, prendre juste ça, c'était peut-être un peu limité. Il y a eu ce qu'on avait le Compose File en version 2, qui a rajouté la notion de service avec un peu plus de souplesse là-dedans, entre autres la notion de réplica. C'est l'argument scale, en fait, qu'il y a dans le Compose File, qui permet de dire, bah, moi, des fois, j'ai besoin de démarrer deux instances d'un truc parce que, justement, je suis en train de tester un petit peu de load balancing ou des patterns de ce type-là. Et c'est l'époque où la société Docker, donc Docker Inc., a décidé qu'il serait peut-être temps de s'attaquer au problème du clustering, parce que le business model de l'époque, c'était les sous, ils sont chez les ops, donc il faut qu'on fasse une plateforme ops. Donc voilà, c'était le fameux Docker Swarm dans le Docker Engine et tout ce qui était avec. Et donc, quand il a fallu définir comment est-ce qu'on fait pour créer des services dans Docker Swarm, donc il y a des API spécifiques. Puis ben ils ont fait leur petite étude de marché, tout le monde leur a dit Compose c'est cool, ils ont dit bon ben on va prendre le fichier Compose et on va l'adapter pour qu'on puisse créer des services Swarm. Et ils ont fait le format Compose V3. Alors c'est facile à me critiquer maintenant, mais donc du coup a posteriori il s'avère que en faisant ça, ça a créé deux contraintes. La première c'est que dans le fichier Compose il y avait plein de choses qu'on pouvait partager entre les conteneurs. Vous pouvez dire, bah, mon conteneur machin, il doit partager avec un autre conteneur, bah, typiquement les namespaces de type partage de mémoire, communication, sémaphore, machin, network, ils veulent pouvoir se parler en tant que localhost, l'un et l'autre. Alors, tu te dis, il y a certains cas où t'as envie de pouvoir avoir ce genre de flexibilité-là. Puis là, on te dit, oui, non, mais là, c'est sur un cluster. Donc les services, par définition, bah, ils sont quelque part, ils peuvent bouger, ils peuvent se déplacer.
Encore pire, non?
Ah oui, bah, le système de fichiers, c'est ça. Après, il y a la notion de volume qui essaye d'abstraire ça, mais pour tout le monde, en fait, un volume dans Docker Compose, voilà, c'est un chemin quelque part, quoi. C'est pas un espèce de machin abstrait local, qui va être plus ou moins répliqué. Oui, exactement, oui. C'est mon slash data avec mes données dedans. C'est pas un espèce de file system magiquement distribué, qui va gérer ça à ma place sur tous les nœuds du cluster. Donc, du coup, ce format V3, il a rajouté des concepts de type clustering, de type placement, contrainte de placement, contrainte de distribution et réplication et choses comme ça. Et il a en même temps déprécié et retiré du format un certain nombre de choses qui étaient du domaine du ça marche tout sur la même machine. Et entre autres, cette notion de dépendance entre services, de dire mon application peut démarrer que quand la base de données est prête. Parce qu'on dit, bah, si tu déploies sur un cluster en production, justement, ton code doit gérer le fait que la base de données, des fois, elle n'est pas là. Des fois, elle redémarre. Et... Alors, certes, c'est des beaux patterns de développement, sauf que, bah, en gros, il y a eu un split de la communauté entre les gens qui faisaient du dev et qui utilisaient Compose juste comme outil pratique, et puis les gens qui voulaient faire du Swarm et qui suivaient ces approches-là. Et encore récemment, en fait, on avait beaucoup de gens qui nous disaient « Ouais, le format V2, c'est super pour le développement, et le format V3, c'est pour déployer dans le cloud. » Alors que c'était pas du tout l'objectif initial.
D'accord. Et donc il y a des gens qui restaient sur la V2.
Ah, il y a des gens qui restaient sur la V2 parce que typiquement, ce dont on parlait tout à l'heure, là, la dépendance entre services, c'est super pratique. Là où c'est pratique, par exemple, c'est quand tu utilises Docker Compose, mais pas pour faire ton déploiement. Tu déploies avec une autre technique. Par contre, sur ton poste de développement, c'est pratique de dire mon code, il a besoin de ça, je fais le Docker Compose qui va avec, et ce n'est que un outil de développement pour moi.
C'est ça, c'est le matin, t'arrives, ça va démarrer ton Kafka, ta base de données, ce dont t'as besoin.
Voilà, et quand tu déploies, ta base de données, c'est pas un conteneur Postgre, en fait, c'est une base Aurora sur Amazon, et donc du coup, de toute façon, c'est pas toi qui la gères, quoi. Donc la problématique est vraiment très différente.
Bah, si, là, ces derniers jours, c'est à toi de la gérer.
Tiens, Nicolas, tu parlais de déprécier. Docker-compose versus Docker-espace-compose. J'ai découvert ça il y a quelques mois. Je me dis, punaise, mais il y a Docker-espace-compose maintenant ?
Ouais, alors ça, c'est... Moi, enfin, justement, quand j'ai rejoint Docker, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant, j'étais assez étonné parce qu'effectivement, le projet Docker Compose, tout le monde disait, ouais, c'est cool, mais tu te rendais compte qu'il n'y avait pas grand monde qui était volontaire pour le maintenir, quoi. Qui était toujours un peu à la traîne, que c'était plutôt du backport de fonctionnalités, des choses comme ça. Bah, entre autres parce que le code historique, il est en Python, et que tout le reste des outils Docker, il est en Go. Alors c'est pas que Python ça soit moche et que Go c'est cool, c'est juste que quand t'as toute une code base qui est faite en Go et qu'à un moment on dit ouais oh merde il faut penser à porter cette feature sur le projet Compose et que t'as un gars qui est plein de bonne volonté qui le fait, il a toujours 6 mois de retard quoi forcément. Donc tout le monde disait ouais faudrait le recoder. Et puis quand on dit faut le recoder, là t'as 10 personnes qui lèvent la main en disant ouais on va en profiter pour refaire complètement l'UX et puis l'architecture interne et puis le machin et truc et puis donc du coup c'est jamais fait. Et en fait, comme on a travaillé sur une intégration avec Amazon et Azure, on a commencé à reconstruire en gros le projet Compose en Go. Et puis, inévitablement, on s'est dit, tiens, tant qu'à avoir un runtime pour Amazon et un runtime pour Azure, on pourrait peut-être essayer d'avoir un runtime local. Puis forcément, ça se fait assez bien. Quand tu as déjà tout en Go, tout est déjà dans la commande main Docker. Donc, tu n'as plus jusqu'à aller piquer un peu de code à droite à gauche et puis tu montes le projet. Bon, après, il y a eu 6 mois pour aligner tout ça avec l'existant Docker-Compose, mais on a reconstruit Compose, ce qu'on a appelé Compose V2 après, parce que le nom exact du projet a longtemps été débattu, et puis on s'est rendu compte, mais tout simplement, on a enfin recodé Compose, c'est la nouvelle version de Compose, c'est là-dessus qu'on veut aller. Donc on l'a appelé Compose V2. Alors pendant un moment, c'était Compose dans la Docker CLI, Compose machin, enfin, c'est... trouver le bon nom, c'est toujours un peu compliqué.
Et compose à la plage, compose.
Voilà, c'est un petit peu ça, ouais. et donc, du coup, d'un point de vue technique, c'est un plugin pour la command line. C'est pour ça que tu peux faire un Docker espace compose. C'est une extension qui est faite sur la command line. Exactement. C'est le même mécanisme que tu disais avec Git.
En fait, il y a dans le répertoire bin de Git, tu as Git, Git pool, Git-pool, etc. Et après, la commande Git est capable d'aller dire « Ah, si tu mets Git espace pool, je vais aller rediriger vers Git-pool. » C'est comme ça que tu fais des extensions.
Voilà, c'est ce qui est utilisé aussi sur la command line Docker. Alors, c'est un sujet qui a toujours été débattu chez Docker. Il y a des gens qui considèrent que c'est quand même un super moyen pour expérimenter des choses et aller vite. Et puis il y a un aspect un peu plus produit des choses qui consiste à dire attends, quand t'installes la command line Docker t'en as pas que la moitié quoi. C'est pas le monde Jenkins où t'as 10 millions de plugins et puis tu fais ton marché. Si t'installes Docker, t'as Docker espace pool et puis t'as Docker espace compose parce que c'est comme ça quoi. T'as l'intégralité du paquet cadeau. Néanmoins, bon, aujourd'hui c'est l'architecture qui a été retenue. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait on avait fait ça pour la version 2.0.0. Et puis bon, assez vite, on s'est rendu compte que les gens se mélangeaient les pinceaux parce que, entre autres, en fait, ils avaient leur script d'installation qui allait récupérer la dernière release sur les repos et puis sans se poser la question de savoir s'il y avait une version majeure ou pas quoi. Donc ils se retrouvaient à installer un command line plugin à la place d'un paquet Python. Puis bizarrement, ça se passe pas bien. Très rapidement, ce qu'on a fait pour la 2.0.1 qui est sortie 2 jours après. C'est que lorsque on exécute le Docker-compose, qui est censé être une extension de la command line, et qui détecte qu'il a été invoqué directement, pas en passant par la command line, il se dit, oula, attention, là, je suis en mode tout seul, je mets entre guillemets en mode compatibilité, où j'ai les mêmes arguments que l'ancien Docker tiré compose. Et ce qui fait que du coup, bah, c'est vraiment un remplacement, un drop-in replacement, comme ils disent. Donc, 3 jours plus tard, il y avait Arch Linux qui s'était mis à jour avec le nouveau Docker-compose 2.0.1. Et puis là, du coup, je suis en discussion avec les mainteneurs du côté Debian qui voudraient faire la même chose, du coup, pour toute la galaxie Debian, Ubuntu et compagnie.
Je suis en discussion. Attends, mais c'est-à-dire, tu continues à contribuer au projet?
Ouais, parce que figure-toi que effectivement j'ai quitté Docker, mais mon cœur ne l'a pas complètement quitté, et donc effectivement je suis toujours mainteneur sur Docker Compose. Donc je continue de bricoler des trucs dans mon coin, de répondre aux issues quand j'ai le temps. En temps je fais une petite pull request parce que bon, quand t'as passé 2 ans dans le code, effectivement t'as un gars qui te dit ah ouais tiens t'as tel endroit c'est bizarre il se passe ça, toi tu te dis bah oui il y a une race condition là. Et donc ça te prend pas 300 ans à corriger quoi. Et puis bon, c'est toujours sympa de voir un peu ce que les gens proposent, dans quel sens ça va.
Et du coup, donc, si tu fais Docker espace compose, t'as la nouvelle façon de passer les paramètres.
En fait, c'est ils sont quasiment les mêmes. En gros, seule différence, par exemple, si tu veux switcher de contexte avec Docker, c'est-à-dire que tu as ton Docker local et puis tu veux accéder à une autre machine en SSH, tu vas faire un Docker-context remote pour accéder à la machine remote et tu passes des commandes. Là tu vas faire un docker-context-remote compose up, ouais. Parce que c'est une extension, alors que si tu l'avais fait avec le docker-compose, ça serait le paramètre, il aurait été après le mot compose. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est juste vraiment remettre les flags dans le bon ordre avant ou après le compose pour que ça se passe bien. D'accord. C'est pour ça que c'est sorti 2 jours après, c'était vraiment pas grand chose en fait comme bricolage, mais ça éviter de planter la moitié du monde Arch Linux qui ne méritait pas ça.
Est-ce qu'à terme le docker-compose sera supprimé ou vous allez utiliser cette astuce encore longtemps?
Alors moi très sincèrement, au début effectivement ce qu'on a communiqué c'est le nouveau compose, c'est Docker espace compose. Pour la DockerCon j'avais présenté un truc où en gros j'avais dit on a passé 2 ans à faire un sed-devient-espace. Et puis parce que voilà c'était un petit peu le différenciateur, et puis depuis qu'on a mis ça en place je me dis mais en fait juste tu prends le nouveau, tu le mets dans ton pass, ça fait comme avant, donc on a rien cassé de manière sensible. Bon évidemment il y a quand même quelques petites différences, entre autres il va plus vite, mais sinon en dehors de ça c'est juste la continuité pour l'utilisateur et je trouve ça très bien en fait. Donc je me dis bon, après, je suis bien incapable de te dire ce que les product managers de chez Docker ont en tête pour l'avenir de Compose. Mais en tout cas, dans les mois à venir, il y a peu de chances que ça bouge.
Du coup, j'ai une petite question pour revenir à V2 versus V3 là dans le format, parce que là on a parlé de la Docker Compose V2, mais je pense que là tu parlais du format. Bon bref.
Tout à l'heure, on parle du format, oui.
Du coup, il y a toujours ces deux différenciants ou à un moment parce que de la façon dont tu le disais, j'ai l'impression que ça finit par être résolu, cette dichotomie.
Eh oui, parce qu'il y avait un petit cliffhanger, effectivement. On s'est rendu compte de ça, effectivement, que c'était devenu un problème de compréhension pour les gens qui abordaient Compose. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des gens qui proposaient plein d'évolutions qui étaient pas nécessairement lié à l'outil lui-même, ou des fois justement qui était complètement lié à l'outil Docker-compose, il voulait rajouter des trucs dans le format YAML qui avait pas forcément beaucoup de sens. Et donc on a lancé ce qu'on a appelé la Compose Specification. Alors au départ c'est un truc qui avait été fait, comme on travaillait avec Amazon et Microsoft, on a voulu les embarquer avec nous. Ça n'a pas forcément
très,
marché
très bien,
dans ce...
Microsoft, très très bien.
Bon, du coup par rapport à ces deux éditeurs ça n'a pas forcément beaucoup avancé, mais par contre du coup on a d'autres gens qui sont venus proposer plein de trucs. Donc il y a quand même eu un bon changement de pattern par rapport à ça, c'est qu'on s'est mis à parler du format YAML et non pas de l'outil Docker Compose en Python qui marche comme ça parce que il a décidé que c'était comme ça qu'on faisait. Donc ça reste toujours le même format YAML qui définit quelles sont les limites mémoire et choses comme ça, mais on a essayé de faire une spec qui est un petit peu plus abstraite par rapport à quel est l'outil derrière. Et du coup, ça permet d'avoir des discussions qui sont plus saines, de les faire évoluer dans le bon sens. Et ça par exemple, des gens qui travaillaient sur du mapping entre ce format Compose et Kubernetes, ont pu débarquer en disant, la notion de pool stratégie que tu as dans Kubernetes, qui consiste à dire est-ce que à chaque pod qui démarre va essayer de récupérer la dernière version ou pas d'une image, ça n'existe pas dans Compose. Et puis on se dit, c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement de raison que ça n'existe pas, c'est juste qu'on l'a pas implémenté, mais l'abstraction, elle est pas idiote, quoi. Et donc du coup, c'est des choses qu'on a pu rajouter. Bon, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus débattues, mais du coup, ça sépare les débats beaucoup plus, de manière beaucoup plus naturelle, entre qu'est-ce qu'on a envie de faire et comment est-ce qu'on va l'implémenter dans l'outil, et peut-être pas dans tous les outils d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui peuvent avoir ou pas du sens, quoi.
Mais alors, attends,
la grosse évolution de cette compo spec, et ça, c'est un truc qu'on a fait, je pense que c'est l'issue numéro 3, un truc comme ça, c'est de dire la V2, V3, c'est juste pas possible. La spec, c'est typiquement, c'est pas du tout une spec au sens Java EE, par exemple. C'est une spec qui définit, pour chaque terme qui peut être utilisé dans le format YAML, qui définit ce que c'est censé faire si c'est supporté. Mais tout est potentiellement optionnel. Et donc, on s'est dit, tout ce qu'il y avait dans la V2, ça fait partie de Compose. Le depend zone avec un service qui est LC et tout un tas de paramètres avancés d'utilisation du Docker Engine, ça fait partie de la compo spec. Maintenant, quand tu déploies sur Swarm, il est censé te dire, ça je sais pas faire. On, dans la spec, on dit, ça serait quand même bien de faire au moins un warning à l'utilisateur, si ce n'est juste failer parce que tu sais pas faire, quoi. C'est pas, mais peut-être que c'est pas si grave. Après, du coup, pour l'implémentation Compose en local, en tout cas, ça a vachement simplifié les choses, parce que du coup, tu te dis, l'engine sait le faire, pourquoi s'en priver, en fait ?
Elle évolue où, cette spec-là ? Elle est hébergée où ?
Alors, c'est sur compose-spec.io, de mémoire. Sinon, github/compose-spec.
Il y a une fondation derrière, un truc comme ça, ou non, c'est plus
la Nicolas Deloff Corporation.
Je crois pas qu'il y ait de fondation, je sais même plus, je te dirais franchement à quoi on s'était rattaché, mais ça reste super light en fait comme process. Ce qu'on voulait surtout, c'était détacher ça de l'outil hébergé par la société Docker. Donc c'est pour ça que c'est sur un GitHub à part, qu'il y a des contributeurs de différentes origines qui viennent donner leur avis, et ça permet de faire avancer le truc, mais ça cherche pas non plus à être l'espèce de super spécification qui va réconcilier Kubernetes et Swarm et Mesos et je ne sais qui et Nomad et compagnie en étant le super cloud du futur. Là, c'est juste de dire on a le format Compose, les gens l'aiment bien, comment est-ce qu'on fait pour aller au-delà, quoi.
Mais qui dit spécification dit multiple implémentation. Excuse-moi, Emmanuel. Est-ce qu'il y a d'autres implémentations ou non ? Il y a qu'une implém, en fait.
Alors aujourd'hui, effectivement, on a fini par admettre que Compose V2, c'est l'implémentation de référence. À un moment, en fait, on avait une implémentation qui servait plus de bac à sable. Puis comme la V2 est finale maintenant, on l'a passé comme implémentation de référence. Et puis il y a d'autres outils. Alors il y a un outil qui s'appelle Compose mais avec un K, qui traduit un Compose file en YAML Kubernetes, qui du coup lui aussi supporte la spécification, au moins une partie, parce que de toute façon historiquement il bouffait du format Compose, donc ça ne change pas fondamentalement. Et puis il y a un certain nombre d'outils, alors j'ai plus les références en tête, mais il y a plusieurs boîtes qui proposent typiquement de faire du déploiement Kubernetes, et qui se sont rapprochés de nous en disant, nous, effectivement, en fait, ils utilisent la même brique de base, on a une librairie Compose Go qui gère tout le parsing, en fait, et ils utilisent la même, donc d'office, en fait, ils sont compatibles. Et puis, il y a la partie plus spécifique au build lui-même, au build des différentes images qui sont déclarées dans le Compose file, et là, il y a l'outil Bake, qui est aussi développé par Compose, qui sait faire ça. Alors il sait faire ça avec un compose file, mais il sait faire ça aussi avec du HCL, il sait faire ça avec plein de trucs. C'est un outil qui est parti très très loin dans les tours de la capacité à builder des images de conteneurs, mais du coup lui aussi il sait interpréter un compose file, et pour tout ce qui est les aspects build, il a toute une série d'extensions d'ailleurs dont j'espère qu'ils vont les proposer rapidement dans la compose spec une fois qu'ils seront contents de leurs résultats. Parce que ça, c'est aussi un truc qu'on a proposé dans la spec. Pour ça, je me suis inspiré de ce qui est fait dans le monde du web, en fait. C'est que on a des extensions x-aws-machin pour passer des paramètres propres à AWS. C'est ce qu'on a utilisé dans l'implémentation pour ECS. Donc, quand tu fais quand t'es sur un contexte de type ECS, tu peux faire Docker Compose Up et ça déploie sur ECS. Bon, ça prend 30 minutes, mais ça déploie. Et puis, bah, forcément, il y a 2-3 bricoles là-dedans qui sont spécifiques à Amazon parce qu'il faut passer un row et l'IAM et des choses comme ça. Et donc, il y a X, AWS, machin. C'est l'extension propre. Et ça, bah, a priori, si tu déploies en local, il va l'ignorer. Si tu déploies sur Microsoft SCI, il va l'ignorer. De la même manière que ton navigateur Chrome, quand il voit un x-safari-machin, il n'en tient pas compte, quoi. Jusqu'au moment où tout le monde va débarquer dans la CompoSpec en disant, bon ben voilà, nous on a essayé ce truc-là, et puis ben, ça nous semble pas mal, c'est finalement assez générique, ça pourrait s'appliquer à d'autres plateformes, et du coup on va dire, ben, ok, on le normalise.
D'accord. Et juste, j'ai une question autour de... des espèces de compétiteurs à ce format-là. Mais avant, Beck, du coup, quand moi, je tape Beck Build, je trouve un Australien qui fait des...
Ouais, c'est BuildX, en fait, qui gère ça. C'est une sous-commande de Docker BuildX. Alors, BuildX, c'est le nouveau builder. Alors, ça fait un moment qu'il c'est le nouveau builder, mais aujourd'hui, quand tu fais une commande Docker Build, en fait, c'est BuildX qui est utilisé derrière depuis quelques temps.
D'accord.
Et avant ça, en fait, tu devais switcher ta commande. Tu faisais un Docker BuildX. Et là aussi, s'il y a un command line plugin dans ton répertoire point Docker, si elle a un plugin, tu devrais avoir normalement un BuildX qui se promène. Et donc cette commande étendue, tu peux faire un Docker BuildX Bake, qui est un outil de build qui sait consommer des fichiers compose.
D'accord. Est-ce que un jib ou je sais plus quel autre truc c'est quoi le truc qui est chez CNCF là pour faire des images c'est dans la même zone de fonctionnalité
jib l'idée c'est alors là c'est la façon dont on construit une image
ouais.
Je le prends dans l'autre sens. Aujourd'hui quand tu construis une image avec un Dockerfile, grosso modo tu donnes une recette sous forme de commande à exécuter. Il dit, ouais, j'ai mon conteneur, bon, ce qui, en fait, mon file system Linux, il est dans tel état, j'exécute une commande, ça modifie l'état du file system, je l'enregistre. Ça fait une nouvelle image. Sauf que, bah, voilà, tu passes des commandes, quoi. T'es pas en train de dire, tel fichier va aller à tel endroit et je change les droits de tel autre répertoire. L'approche qui consiste à être, entre guillemets, plus déclaratif, à dire, mon file system doit ressembler à ça, c'est ce qui est utilisé par des outils de type jib, qui consiste à dire on a un runtime existant et on veut mettre une application Java, et puis une application Java, bah finalement c'est juste un fichier jar qu'on va mettre à tel endroit, et un fichier de conf qu'on va modifier comme ça. On n'a pas besoin d'exécuter une commande pour le faire, en fait. Donc du coup, bah, on va juste construire les différentes couches de file system, mais sans à aucun moment devoir exécuter une commande dans un conteneur. Ce qui du coup permet d'être très rapide. Ce qui permet aussi de bypasser pas mal de problématiques de sécurité parce que tu n'exécutes pas vraiment de commandes dans un conteneur pour faire des trucs. Donc c'est quand même assez reposant pour les gens de la sécu. Par contre, bah du coup, tu te contrains énormément à un certain nombre de patterns. Donc quand il s'agit de dire j'ai une application Spring Boot, je prends l'image Java de base, je lui mets un WAR dedans et je la démarre de telle manière, ça suffit largement et tout le monde est content avec ça. Quand tu veux vraiment avoir la main très finement sur ce que tu mets dans ton Dockerfile et pouvoir faire tes propres pages de sécurité parce qu'il y a un truc sur Log4j, je ne sais pas si vous en avez entendu parler là, dans ce moment qui est passé, bah c'est vrai que du coup, bah là, tu as la main totalement. Donc, après, je ne dis pas, hein, c'est pas, si ceux qui nous écoutent et qui utilisent Jib, je pense qu'il y a moyen de patcher aussi. Rassurez-vous.
Il faut reconstruire Internet, c'est pas...
Là, on n'est pas loin, là, quand même. Hein. Ouais, je parlais des dev containers parce que c'est un peu... Là, l'idée, c'est de dire, plutôt que de devoir faire un setup, ben moi, j'y suis confronté en ce moment, hein, d'avoir la bonne version de Ruby, la bonne version de Node, la bonne version de machin, et de passer 2 jours à récupérer tout ce qu'il faut pour avoir un environnement de développement au carré. Et ben, c'est de se dire, mais en fait, tout ça, on va le faire tourner dans un conteneur. Donc, ça, c'est un truc qui est proposé par VS Code et ben, JetBrains, ils ont un truc à peu près équivalent. Et donc, en fait, ton éditeur devient un éditeur entre guillemets à distance pour du code qui est à l'intérieur d'un conteneur et très évidemment ils ont la même problématique de dire quand tu veux faire du Rails et à un moment donné il te faut une base de données et ils sont pas été chercher très loin, ils se sont dit on va prendre Compose en fait Donc tu dis, bah moi, mon application, c'est je travaille dans tel conteneur et tous mes services, ils sont tous les services dont je dépends, ils sont définis par la compose file. Mais c'est vraiment le même. Tu retrouves le même niveau d'expression, je pense, sur des outils alternatifs qui ont le même genre de besoin, quoi.
D'accord.
Alors justement, là, on parle de... tu viens de parler, puis on en a parlé tout à l'heure, l'application A dépend de la base de données, et c'est aussi hyper pratique quand tu as des microservices, tu vois. Moi, j'ai une démo où mon Docker compose ces 3 microservices, 2 bases de données et un Kafka, et tout ça, c'est super, en à peine 100 lignes. Comment ça marche, le réseau, là? Parce que moi, j'ai un Docker compose avec... ou je sais plus trop où, là, c'est une config de Prometheus, je crois, où j'ai une config pour Linux, où j'ai localhost, et puis une config pour Mac, où j'ai l'alias réseau. Comment ça fonctionne lorsque tu as ton Docker, moi, compose avec toutes ces briques-là, le réseau interne à ce machin, et la partie externe, en fait. Comment fonctionne le réseau?
Alors dans Docker Compose, t'as le concept de network au même titre que les volumes, qui sont tout simplement le mapping de ce que te propose la command line Docker. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu veux démarrer des conteneurs Docker, tu peux créer déjà un réseau qui, du coup, t'en as un par défaut. C'est le bridge network, c'est celui avec lequel, quand t'exposes un port, bah, comme par magie, il apparaît disponible sur ta. Tu prends ton navigateur, t'ouvres localhost de point machin et hop, Docker Desktop fait ce qu'il faut pour que t'accèdes à ton conteneur. Ça, c'est le network par défaut. Et puis tu peux définir des networks à part, ce qu'on pourrait appeler un espèce de network privé en fait, dans lequel tu vas permettre à des services qui sont pas censés être exposés de communiquer entre eux. Tu retrouves ce concept-là dans Docker Compose, sachant que le network par défaut il est considéré comme implicite, c'est-à-dire que tous les services, s'ils disent rien de particulier, on considère qu'ils sont attachés à ce network, donc ils peuvent se voir les uns les autres. Et si tu précises que tel service, il est sur tel network machin, et là, tu peux commencer à faire joujou, tu peux dire, alors celui-là, il va avoir telle adresse IP fixe, il va être que en IPv6, et que je vais mettre telle règle IPM, et je ne sais pas quoi, et tu peux aller assez loin, mais là, faut commencer à s'y connaître un peu, parce qu'effectivement, quand ça marche plus, tu sais pas pourquoi. Donc, bon, c'est... Mais du coup, effectivement, moi j'ai déjà vu ça dans des issues, hein. Alors ça m'a rappelé mes cours, parce que moi à l'époque j'étais censé être ingénieur système et réseau. Je dois reconnaître que la partie réseau, je l'ai un peu laissé derrière. Mais des fois, ouais, tu vois des configurations où tu as des outils comme ça qui ont besoin d'être configurés de manière très très fine au niveau réseau, au niveau de leur droit d'accès. La plupart des gens, très sincèrement, ils disent j'expose le port 80. Voilà, et partout, en fait, je veux pas trop le savoir. Et en développement, ça nous suffit largement. Et puis c'est vrai que quand tu vas discuter avec des gens qui sont plus du domaine ops, c'est là que tu découvres un pan entier de l'ingénierie logicielle où on t'explique, oui, mais non, en fait, tu vas pas t'exposer comme ça sur les 4 cartes réseau de la machine, parce qu'il y en a 2 qui sont pour le réseau interne et que celle-là, elle passe par un proxy de sécurité et que, donc, Mais ouais. L'intérêt du coup, c'est que en fait, on a découplé cette discussion au lieu de devoir la coder directement dans ton appli. Dans ton compose file, ça devient un déclaratif sans que ça t'implique beaucoup. Et après, c'est au moment effectivement d'un déploiement autre que tu vas pouvoir ajuster ce genre de choses. Il y a quelque chose sur lequel on avait commencé à travailler sur Docker Compose, c'est de générer de la même manière qu'on générait pour SES et Microsoft SCI, on avait commencé à générer des Helm charts. En se disant, typiquement, on ne cherche pas à réinventer les outils Kubernetes. Si tu veux déployer sur Kubernetes, aujourd'hui, effectivement, tu vas passer par des Helm charts, tu vas faire du customize si tu veux patcher des choses. Bon. Et donc, on se dit, bon, on prend le fichier compose, on génère le YAML Kubernetes pour lequel le mapping est assez naturel. Et puis, le jour où tu veux aller customiser un truc, typiquement pour des problématiques de je fais du service mesh, donc j'ai besoin de rajouter tel label, et ben ça, tu le fais avec les outils standard Kubernetes, on cherche pas à réinventer la poudre. C'est aussi ce qu'on avait fait sur l'intégration avec ICS, où en fait on génère un gros paquet de CloudFormation, parce que c'est l'outil de développement natif en fait qui est utilisé sur Amazon.
D'accord. Et justement, parce que, en fait, moi, quand j'ai commencé à regarder pour cette interview-là, en général, je tape Docker Compose et puis je me balade avec Google et j'arrive assez vite sur la doc et je zoome. Donc, au début, tu dis, OK, ça a du sens, service. Bon, il faudrait qu'il me décrive ce que ça s'appelle un service, mais bon, ça a du sens. Et puis, assez vite, tu vas quand même dans les trucs assez touffus et hyper détaillés, le réseau, la sécurité, dont j'aimerais qu'on parle aussi. Et donc, comment vous faites pour dire, non, et ça, Coco, tu vois, tu pousses trop loin, quoi. Comment est-ce que vous faites votre équilibre? Parce que il y a l'aspect et puis il y a aussi, il faut quand même l'implémenter avec le moteur, le bousin, quoi.
Alors, c'est là qu'on revient justement sur l'historique du projet Compose. C'est que la plupart des attributs que tu vois dans ton Compose file, ce sont quasiment un pour un les flags que tu as sur un Docker run. Et Docker run, quasiment tous les flags sont les capacités du noyau Linux, en tout cas celles qui ont été exposées par l'engine Docker. Donc c'est vrai qu'il y en a certains, quand tu commences à passer des flags cgroup-namespace-machin, tu commences à te dire, là, je sais pas très bien ce que je fais, en fait. Enfin, en tout cas, j'espère que ceux qui utilisent ces flags-là ont une idée de ce qu'ils font. Mais des fois, ouais, ça peut être assez obscur quand tu commences à dire, j'ajoute une capability à mon conteneur. C'est pour la plupart des gens, ça reste un truc très très abstrait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve avec plein de gens qui disent, tiens, je vais rajouter dash dash privilege, parce que du coup ça marche quand je fais ça. Et ils viennent, en fait, la plupart ne réalisent pas que quand ils font ça, en fait, ils ont juste désamorcé tous les mécanismes de sécurité qu'on avait mis en place pour eux. Et c'est pas une super idée. Bon, voilà, c'est un truc à retenir de cette interview.
C'est la grosse tension entre le dev et l'ops quand il n'y a pas d'approche partagée. Ouais. Le dev, il s'en fout, et l'ops, il s'en fout pas du tout. Quoi.
Non, mais c'est vrai qu'il y a, plein de paramètres qui sont... c'est là, en fait, que tu réalises que quand tu lances un conteneur, finalement, tu pilotes un process. Parce que toutes les capacités qu'a le noyau Linux de gérer l'isolation entre process, de gérer la façon dont ils accèdent aux ressources, la façon dont ils partagent entre eux les ressources, tu les retrouves sur ces flags-là. Alors, sachant qu'en plus, il y en a quand même un certain nombre, parce que forcément, le noyau Linux, il évolue de son côté, il y en a un certain nombre qui sont pas forcément exposés et qui le seront peut-être un jour et qui vont venir se rajouter à la liste. Mais je pense typiquement à tous les profils de sécurité que tu peux mettre en place, de type apparement, des choses comme ça. C'est des choses qui sont exposées. Je suis convaincu qu'il y a des gens au niveau système qui les exploitent. Mais pour un développeur, ce flag-là, le jour où tu fais... C'est-à-dire, c'est assez amusant, quand tu fais un docker run-help, tu vois le nombre de flags, tu te dis, bon, dans tout cela, il y en a 4 que j'utilise au quotidien, il y en a une bonne vingtaine, je sais pas ce que ça fait. Et finalement, c'est pas très grave, hein, tant que ça fait ce que toi tu veux. Mais du coup, c'est si tu veux justement un petit peu creuser ces aspects-là, de dire, mais du coup, mais ça fait quoi ce... Bah, tu vois, typiquement, le cap add, je trouve que là, il est assez intéressant. De se rendre compte ce que ça implique en fait de gérer un process sur Linux. Je pense que pour beaucoup de développeurs, le monde Unix, c'est est-ce que je suis root ou pas.
Voilà, ah non, il y a chmod 777.
Alors il y a l'autre extrême. Non, mais voilà, c'est ça, c'est un peu la notion de privilège sur un système Unix, c'est est-ce que je suis root ou pas. Et en fait, il y a une palette entre le blanc et le noir très 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 vaste de gris. Et il s'avère qu'en fait, on peut avoir vachement plus de privilèges en faisant un docker run-privilège que juste en étant root sur la machine, quoi. C'est ça qui est rigolo. Et parce que même l'utilisateur root, il peut quand même avoir quelques contraintes.
D'accord. Ok, ça fait... Ok. Ça fait un peu froid ce que tu viens de dire, mais ok.
Donc après, ouais... Non, mais c'est ça, c'est que... Bon, bah, faut bien retenir une chose, c'est qu'aussi les paramètres par défaut d'un docker run ont été justement taillés pour que, a priori, une application normale démarre. Tant qu'elle fait pas des choses complètement aberrantes, quoi. Et que, bah, si tu commences à faire des choses un peu avancées, parce que t'as besoin d'accéder, tu vois, typiquement, si tu veux accéder à un GPU parce que tu fais du calcul intensif, bah, là, on va te dire, là, ce truc-là, faut que tu accèdes directement au device, faut que t'aies un accès exclusif, en fait. Donc, par définition, là, t'es obligé de décocher une case, et donc là, tu vas devoir passer des flags exprès. Par contre, tu veux démarrer une application Java, Ruby, machin, qui va accéder au réseau et lire des fichiers, bon, bah, ça, évidemment, ça marche par défaut.
Et en tant que mainteneur de l'outil, tu vois, l'implémentation Docker Compose, En fait, t'es plutôt passe-plat pour ces trucs qui sont très bas niveau et du coup, bon ben, c'est, tu vois, t'as juste un mapping et c'est assez simple. Ou alors, tu vois, le gars il veut rajouter un truc de network et là tu dis oh là là.
Ouais, très clairement, on est passe-plat. On est passe-plat. On se base uniquement sur ce qui est exposé par l'API du Docker Engine. Ouais. L'idée, c'est justement par rapport au problème qu'on avait avec Docker Composant Python. C'est-à-dire, si quelqu'un vient rajouter un flag avancé dans la command line Docker run, en fait, le code, une fois qu'il est en Go, on a juste à le récupérer. Si ça a été fait de manière un peu sympathique, c'est du code qui est exporté, on a juste à appeler la méthode. Sinon, au pire, on fait un copier-coller. Ah, pardon, on appelle ça du vendoring en Go. C'est pas de copier-coller. mais voilà, du coup, ça va très vite, quoi. Parce que là où c'est compliqué de faire rentrer ces choses-là, c'est qu'effectivement, il faut que ça soit sur des versions suffisamment bien installées du noyau Linux pour que ça touche à un public large, que ça rentre dans RunC, puis dans ContainerD, puis dans Docker, puis dans la version stable de Docker, et ainsi de suite. Et donc déjà, quand ça arrive dans le code de la Docker CLI, et ben, dans la minute qui suit, potentiellement, c'est dans le code de Docker Compose. Ça fait déjà 6 mois de moins à attendre.
Ok, ouais. En fait, comment on l'utilise en pratique en dev, qui était la section d'après, mais en fait, on a quand même pas mal saupoudré, on est parti un peu dans tous les sens, là.
Sans blague.
Du coup, je crois qu'on a couvert quand même pas mal de choses. Juste les health checks, comment ça se passe?
Où est-ce qu'on met le fichier? Attends, il y a cette question. Parce que moi, je mets les fichiers tout le temps dans SRC main Docker. Parce que j'ai vu ça, je sais plus trop où. Et donc, ça fait des années que je fais ça. Je trouve que c'est pratique parce que j'ai SRC main Docker, SRC main Java, SRC machin. Mais où est-ce qu'il faut les mettre, ces fichiers? Ouais, effectivement.
Eh ben, alors là, franchement, tu les mets où tu veux.
Il y a une réponse, mais qu'on a coupé au montage. Mais...
j'ai pas osé. Alors, par contre, là où tu vas être content, c'est que jusqu'ici, tu écrivais docker-compose.yaml, et maintenant, tu peux mettre juste compose.yaml. Tu vois, je viens de t'économiser quelques touches. Ah oui, parce que comme c'est la compose spec, et ben, c'est pas forcément que docker- tiré. Voilà. Ça va pas changer ta vie, mais c'était l'info inutile du jour.
Super.
D'accord. Et donc, pour revenir sur les health checks, comment ça se déclare c'est peut-être juste comme cube où tu pointes vers une URL.
Alors, c'est un peu plus. C'est pas complètement. Là, justement où c'est intéressant de voir le mapping qu'on a entre Compose et Kubernetes. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on générait des Helmcharts et qu'on laissait la main aux gens pour venir customiser. C'est que il y a la notion de health check dans l'engine Docker, mais par contre, ce sont des commandes qui sont exécutés. T'as pas, en tout cas pas encore, cette idée de dire vérifier le health check d'un service, c'est pinguer une URL. Là, on te dit, on va faire un exec dans le conteneur, on va passer une commande qui peut très bien être un curl localhost machin. Hein, au final, il y a beaucoup de gens qui font ça.
Ou un slip.
ou un je ne sais quoi, ou un trou simplement parce que tu considères que ton service il est toujours up. Et donc c'est vraiment une commande de test. Et il n'y a pas cette idée de dire ça pourrait être une URL de test. Alors que ça, t'as ça sur Kubernetes. Donc il y a quelques petites différences comme ça. Et du coup, cette notion de health check, elle est gérée par l'engine. Donc c'est dans l'API Docker directement qu'on peut dire le conteneur est LC. Et donc du coup, le service qui a été déclaré dans Compose est LC. Et donc du coup, mon application peut démarrer. Là où ça peut être justement, où on peut un peu gagner du temps, entre guillemets, on pourrait très bien dire, après débat sur la Compose spec, que ça serait bien d'avoir une notion de health check de type URL. Il me semble qu'il y a déjà une issue d'ailleurs qui a été proposée là-dessus. Parce que certes, l'engine ne sait pas le faire, mais en même temps, l'outil Docker Compose, lui, peut très bien le faire à sa place. Si c'est juste taper une URL pour voir s'il y a quelqu'un au bout, il est avec une liste de protocoles supportés, il serait tout à fait capable de le faire à sa place. Donc là, entre guillemets, on peut venir combler le gap qu'il y a entre l'implémentation Kubernetes ou d'autres équivalents. D'accord. Parce que on est en mode client et donc du coup on peut faire des choses supplémentaires.
D'accord.
Alors voilà, là je viens de retrouver un de mes Docker Compose qui traînait et justement là pour le health check pour Postgre, ce que je faisais là, c'est que dans la balise health check, En dessous, j'ai la balise test et je passe une commande. Je passe un PG is ready. Ouais. Donc on peut en plus être un peu plus précis sur le health check. C'est-à-dire que là, mon health check, je dis pour mon Postgre, tu exécutes la commande PG is ready. T'attends 5 secondes. Tu refais ça 3 fois. Et si c'est pas bon, voilà. Donc on peut être aussi précis sur qu'est-ce qu'un health check pour tel ou tel service.
Oui, exactement. À partir du moment où tu exécutes une commande, c'est ça, tu peux potentiellement aller vérifier beaucoup de choses. Ouais. Quand j'ai rejoint Doctolib, justement, je me suis rendu compte que sur les postes de dev, on utilise ça. En fait, il y a dans le README du débutant développeur, il y a taper Docker Compose up et puis aller prendre un café et puis quand vous revenez, c'est bon, vous pouvez démarrer Rails parce que il y a un Postgre, un Elasticsearch, un Redis à démarrer et que. Et puis bon, en fait, j'avais vu qu'il y avait des scripts qui faisaient des waits sur le health check et des choses comme ça. Puis en fait, je me suis dit, mais c'est con, parce qu'en fait, ça, dans le code Compose, on a déjà cette logique-là. C'est juste que ça n'a jamais été pensé en se disant, on veut démarrer la stack Compose, mais c'est pas... En fait, c'est juste un backbone pour le développement. Parce que moi, je suis dans mon IDE en train de faire du Rails, et ça, c'est pas dans Compose. Donc du coup, j'ai rajouté j'ai fait une PR dans la soirée pour rajouter un Compose up --wait, qui consiste à dire tu démarres toute mon appli, mais tu ne rends la main que quand tous mes services sont LC. Lapsus.
Ouais, c'est
ça. Ça, c'est con, ouais, ça, c'est un autre état, en fait, des services. Ils ont l'air d'être bien, mais en fait, ils sont en enfer, quoi. Bref, donc du coup, ouais, c'est un truc que j'ai rajouté qu'on utilise maintenant, parce que t'arrives sur ton poste, tu fais Docker Compose up--wait. Le truc, il attend un peu, puis il te dit, voilà, c'est bon. Au moment où il rend la main, tu sais que tous tes services sont démarrés et sont prêts à développer, quoi.
D'accord.
Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut rajouter. Aujourd'hui, il n'y a pas de roadmap autour de Docker Compose. Il y a eu plusieurs tentatives, en fait. On parlait tout à l'heure de la V2 et de la V3, du format YAML, parce que, justement, il y avait le développement de Docker Swarm. Mais enfin, en tout cas, quand j'ai quitté Docker, il y a forcément eu des changements depuis, mais il n'y avait pas forcément d'idées fortes pour dire donc voilà, dans Compose version 2.1, 2.2, on fera ça. Aujourd'hui, la roadmap, c'est qu'est-ce qu'il y a dans les issues qui ont été proposées et puis qui va faire une pull request pour rajouter des choses. Donc ce genre de petites évolutions, elles coûtent pas très cher à mettre en place et ça permet de débloquer des nouveaux use cases. Donc,
est-ce que tu parles de la roadmap de la spec ou la roadmap de...
Je parle de la roadmap de l'outil. La spec elle-même, c'est selon les débats qui sont mis en public hein, sur le repo Compose Spec et en général qui sont fortement liés à qui veut implémenter telle fonctionnalité dans l'outil lui-même. Puisque c'est en général on commence par ça, quoi. Il y a quelqu'un qui nous dit moi j'aimerais bien que ça fasse ça, on dit bah écoute, déjà on va au niveau de la spec, on va en discuter pour savoir comment on l'exprime et du coup potentiellement comment on met ça dans la librairie Compose Go après pour que ça soit utilisable partout, quoi.
Donc il y a des moments, enfin je pense que c'est même la majorité du cycle de vie où la spec va réfléchir à des sujets, les finaliser. Et puis après, il faut peut-être attendre un certain temps pour que ça soit donc implémenté. Et à contrario, l'outil permet de tester des nouvelles commandes qui seront peut-être spécifiées plus tard, non ? Est-ce qu'il y a un décalage comme ça de cycle de vie ?
Il y a un décalage dans les deux sens. On parlait tout à l'heure des extensions x-truc dans le format YAML. Ça permettrait typiquement dans Docker Compose de dire on a envie d'essayer un truc rapidement. Donc on va faire un x-docker-super security mode, parce qu'on a inventé un super security mode, et donc ça on le veut tout de suite, mais c'est une extension qui est propre au Docker Compose packagé par Docker Inc. Et puis du coup, comme on est des gens bien, on va en discuter dans la Compose Spec, et on va dire, en fait ce truc-là, vous voyez, c'est juste pour dire, ça, l'idée qui est derrière, c'est d'activer telle capacité du noyau Linux, qui est disponible depuis temps et qui a priori pourrait être appliqué partout. Et puis une fois que tout le monde est d'accord, on dit OK, on la met dans la spec et puis on met ça potentiellement dans le projet Compose Go pour que le parsing puisse se faire de manière globale. Puis après c'est backporté dans le dans Docker-Compose. Ce qu'il faut bien voir, c'est que là, j'ai l'air de décrire un process super compliqué, mais bon, tout ça, ça peut se faire en deux heures, quoi, parce que c'est juste trois discussions autour d'une pull request. À une époque, on faisait de manière, toutes les deux semaines, on faisait un meeting, pour justement discuter un petit peu, en face à face des différentes évolutions. Puis bon, le truc a été un peu suspendu parce que bon, on n'a même pas non plus toutes les traitements, on n'a pas tout très régulièrement des sujets ou en tout cas ils sont pas toujours tous débattus, quoi. C'est-à-dire que une fois qu'on en a discuté au niveau d'une issue et que on est d'accord, eh ben on fait juste merge en fait. Il y a pas de raison de débattre pendant 300 ans, quoi.
Je vais te dire un truc, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, mais donc Docker Swarm du coup a perdu un peu de sa superbe en termes de focus sur Docker Compose. Docker Compose, l'outil est quand même central là-dessus. Et après, effectivement, tu dis le format de Compose Spec peut être utilisé pour déployer sur différents Kubernetes as a service ou autre chose. Mais du coup, t'as toujours cette tension. Enfin, vous avez lâché l'attention en disant on va mettre plein de flags et puis il y en a qui seront pas utiles et d'autres qui vont pouvoir marcher dans certains environnements et d'autres dans pas. T'as pas peur que ça soit compliqué, du coup, que le développeur dise « Ah ouais, mais alors j'ai lancé ça, et en fait, ça ne marche pas dans tel cas, mais ça marche dans tel autre, et que ça devienne vraiment… »
Ben en fait, c'était déjà le cas.
Ah ouais, d'accord.
Tout simplement, parce que…
C'est pas pire.
Ouais, non, mais c'est ça. Tu vois, typiquement, dans le format, aussi bien dans le format V3 que dans le format V2, il y a certains flags qui marchaient pas partout. Le format V3 qui avait été au départ taillé pour Docker Swarm, je pense qu'il y a eu une difficulté de timing pendant la sortie de Docker Swarm. Il faudrait reconstituer l'historique pour être sûr. Mais il y a certains attributs qui sont marqués comme étant clairement pas supportés par Swarm. Donc tu vas les mettre dans ton compose file. Tu fais un compose up, un Docker compose up, ça va démarrer sur ta machine. Et tu vas faire la commande pour Swarm, c'est Docker stack deploy. Et là, il va dire, ah non, ça c'est pas supporté. Mince, pas de bol. De la même manière, quand tu, même sur ton poste de développement, dans ton fichier au format V2 qui était censé justement faire tout tranquillou sur la machine locale, bah, il y a certains arguments qui dépendent, par exemple, qui sont taillés pour les Windows containers, donc a priori t'es pas forcément concerné. Ouais, t'en as certains qui vont nécessiter telle version du noyau Linux ou telle version de l'API de l'engine, et ça, il y a que au moment où tu vas la lancer en fait que tu vas savoir si ça marche ou pas. Donc on a beaucoup de gens qui nous disaient en fait. Les versions historiques des fichiers compose, t'avais la première ligne que tu mettais, c'était version 3.4. Tu disais comme ça, je suis sûr d'avoir la version du fichier avec le schéma qui va bien, qui me le valide. Et en fait, bah, selon ce que t'avais comme engine Docker derrière, selon ce que t'avais comme noyau Linux derrière, et ben il y avait des choses qui allaient passer ou pas. Donc en fait, on a juste considéré que bah, c'est un état de fait et qu'il y a qu'au moment où on va exécuter que le runtime va pouvoir te dire ça, je sais pas le faire. Voulez-vous continuer? Oui, non, en gros.
D'accord. Ok. Je reviens à une question tactique, parce que là, on est parti sur des trucs un peu plus haut niveau, mais quand je suis dans le développeur, hein, donc c'est l'orchestration finalement de déploiement de plusieurs containers. Et souvent, on a besoin de partager de l'info. Par exemple, la base de données, je vais pouvoir extraire le mot de passe qu'elle a décidé et puis je vais vouloir l'envoyer dans l'environnement, variable d'environnement pour mon appli. Voilà. Est-ce qu'il y a des mécanismes pour ça?
Alors, il y a un mécanisme qui est hérité de Docker Swarm, qui est la notion de secret set config, qu'on retrouve à peu près l'équivalent dans Kubernetes, quand on fait tourner Compose en local, en fait, il se contente de faire un montage d'un fichier. Donc, c'est qu'un secret de polichinelle, hein, mais du coup, ça fournit le service, en fait. C'est-à-dire que mon conteneur, il va avoir un slash run, slash secret avec ce qui va bien dedans, qui sera juste le même que tu as sur ta machine de dev, avec marqué foo bar à l'intérieur, quoi. Et sinon, ce qui est l'approche très, 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 très courante, c'est une variable d'environnement. Parce que dans le YAML Compose, on a des notions de variables. Alors c'est apparemment un cas unique dans le monde YAML d'avoir cette notion de variable au format bash, hein, dollar, accolade, truc muche. La plupart des autres outils ne se sont pas embarqués à essayer de faire ce genre d'interpolation de valeurs dans un flux YAML. Alors je sais parce qu'effectivement au niveau du parsing dans Compose Go, ça nous oblige à faire quelques acrobaties, mais c'est vrai que c'est super pratique parce que ça veut dire typiquement que tu vas pouvoir avoir un compose file qui est entre guillemets générique pour lequel tu vas démarrer, bah, tu vois, typiquement, tu veux démarrer ta base de données Postgres et tu veux que la version exacte de Postgres, ça soit une variable parce que tu es en train de tester la migration entre plusieurs versions successives. Et ben, ça, tu le mets sous forme de variable et tu fais exactement la même chose pour tout ce qui est passage d'arguments, de username, password, des choses comme ça. Alors évidemment, au moment où tu déploies en prod, tu fais ça avec un chouille plus de subtilité pour pas que ça apparaisse en clair dans tes logs, quoi.
En tout cas, entre le LCA et le Secrets de Polichinelle, on a des bons concepts là.
On est au taquet là.
Ouais. Ok. Quel rapport avec Docker Desktop en fait?
Alors, il y a eu un. Là tout à l'heure, je parlais du fait qu'on pouvait utiliser à partir de la 2.0.1, on pouvait directement prendre le binaire. Publié Docker Compose et l'utiliser comme l'ancien Docker Compose. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on avait fait initialement pour Docker Desktop, parce qu'on a eu toute une phase de canary testing, où en fait, des gens qui installaient des versions récentes de Docker Desktop, quand ils tapaient Docker-Compose, on leur mettait rapidement une petite pop-up en leur disant « Chouette, vous êtes en train d'utiliser la V2, dites-nous si ça se passe mal », et puis en fait, ils utilisaient la V2. Et puis des fois, ils nous disaient que ça se passait mal. Bon, et puis ça nous a permis en fait d'avoir une quantité quand même assez significative de retours sur le nombre d'utilisateurs de Compose V2 en tant que juste remplaçant pur et simple de la ligne de commande Docker-Compose, pour lequel ça se passait bien. Et puis de se rendre compte qu'il y a quand même 90% des gens qui font Docker-Compose up et Docker-Compose down, et c'est tout, quoi. Mmh. Parce qu'il y a plein de flags super avancés qui servent pas tous les matins, sur lesquels il a fallu qu'on bosse, parce qu'évidemment, il a quand même fallu reproduire tous les différents scénarios, mais finalement, ça touche assez peu de monde. Donc, on était, quand on a fait la version finale 2.0, on était très confiants, parce que entre ceux qui avaient voulu tenter le coup de faire un Docker espace compose, parce qu'ils voulaient avoir le joli joujou tout neuf, et puis, du coup, on avait quand même déjà un bon paquet de gens qui avaient migré, plus ceux qui avaient migré en mode canary testing, puisqu'on avait commencé à pousser la barre assez haut en termes de canary. On avait quasiment la moitié des utilisateurs pour lesquels on a des métriques dans Docker Desktop qui utilisaient la version 2 au moment où on a fait la release finale. Donc ça commence à faire une belle base d'utilisateurs, quoi.
Ouais. Ok. Est-ce que, Antonio, tu vois les choses à... Dernière question.
Non, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Oh, peut-être une question un peu perso. Tu vas continuer à t'impliquer sur le projet ou comment tu vois ça?
Bah moi je continue à suivre, clairement, bah, tous les matins, franchement, je jette un petit coup d'œil comme ça pour voir s'il y a des issues avec des sujets un peu touchy. Mes ex-collègues de Docker continuent de me mettre en revue des pull requests, parce que histoire de se tenir au courant, de bénéficier au fait que j'ai quand même encore à peu près le code en tête, donc c'est quand même, ça permet de dire ah ouais non mais là non, parce que ça va péter à tel endroit. Donc ouais, j'ai toujours un pied dedans. Et puis, je propose des trucs de temps en temps. Puis d'ailleurs, j'ai proposé un talk à DevOps. Hein, je veux pas de lancer un message comme ça en passant.
Et alors, une autre question un peu perso, hein, mais est-ce que ton nouvel employeur, justement, il t'a pris un peu pour ta connaissance Docker Compose, et est-ce qu'il t'autorise sur ton temps de travail à contribuer? Est-ce que ça fait partie d'une de tes tâches, en fait?
Ça fait pas proprement parler de mes tâches. Non, en fait, j'ai pas été du tout recruté par rapport à ça. Pour tout dire, en fait, pendant la phase d'entretien, il y a un des entretiens, c'est un entretien technique où on fait un kata en TDD. Alors moi, qui d'habitude écris pas de test, je te raconte pas le truc. Bon, et en plus, bon, je débarque en disant, moi, ça fait 2 ans que je fais du Go, donc je vais essayer de le faire en Go. Alors, il me dit, tiens, personne l'avait fait en Go jusqu'ici. Bon. Et puis on s'est retrouvé à faire des opérations ensemblistes sur des paniers où il fallait calculer les moins 20% sur les articles les plus représentés, tout ça. Bon, alors pour ceux qui n'ont jamais fait de Go, faut savoir qu'en Go, il n'y a ni de filter, de map, de reduce, de distinct, il n'y a que la boucle for, en fait. Et donc du coup, ça avançait pas vite, le kata. Et puis à la fin, ça marchait pas du tout. Et bon, bref, donc je pense que c'est vraiment, vraiment pas pour ces aspects-là qu'ils m'ont recruté. Bon, ce qui m'a rassuré, c'est à la fin de l'entretien, je leur ai dit, mais vous en faites concrètement du TDD au quotidien? Il dit, ah non, non, pourquoi? Non, c'est juste pour, au moins, ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Disons, des tests, évidemment, on en écrit, mais pas forcément de manière aussi scolaire. Mais c'est vrai que ça, c'est un exercice qui est marrant parce que tout le monde est à peu près déstabilisé de la même manière. Voilà. Donc du coup, bah, Docker, ouais, clairement, oui. Bah, quand j'ai rejoint l'équipe, je suis dans une équipe qui, qu'on appelle la développeur expérience. On s'occupe de toute la partie tooling, intégration continue et compagnie. Et bah, il y avait un problématique de performance Docker, donc ça a été carrément le sujet sur lequel on m'attendait. Et je me suis fait plaisir de venir essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Bon, on s'est rendu compte que ce qui posait problème, c'est npm build en plein milieu. Ça bouffe 90% du temps, puis voilà quoi. Mais évidemment, quand quelqu'un a un problème Docker, bien bizarrement, généralement, j'ai droit à un petit ping sur Slack en disant tiens, t'aurais pas un avis sur tel sujet. Donc non, j'ai pas officiellement de temps dégagé dessus. Maintenant, ça pose. D'accord. Enfin, c'est pas dans mon contrat quoi de dire que j'ai du temps pour maintenir le projet. Maintenant, quand je leur ai dit tiens, j'ai fait une pull request pour ajouter un --wait, comme ça, c'est vachement plus simple pour démarrer le lundi matin, commencer à bosser. Bah tout le monde était content quoi.
Et ça wait et puis ça ping la machine à café avec ça l'affiche sur un écran. Tiens, retourne à ta machine parce qu'elle est prête.
Ce serait pas mal.
Ah
ça.
Ouais, c'est pas con ça. Tiens,
j'adore ce côté intrusif de la technologie.
Ah, tu fais va bosser feignasse, ouais, c'est ça.
Okay, un mot de la fin.
Ouais.
Bah, cacahuète.
Bah, voilà, ça me paraît nickel. Voilà. Ça me paraît nickel.
Sauf pour ceux qui sont allergiques, hein, on est dans la bienveillance. Voilà, bah écoute, merci.
Eh ben, merci Nico.
Eh ben, ouais. C'est moi, merci les gars.
J'aime bien parce que nous on se dit, ah, faudrait interviewer Nico sur Docker Desktop, hein. Docker Compose, on attend. Il se barre de Docker, on dit, bon, bah là, vraiment, faut le faire.
Ah, sinon, tu peux m'interviewer sur Docker Desktop, et je dirais plein de mal et tout.
Ouais. Non, mais.
Il faudrait se faire un truc de Noël, tu vois, un bêtisier de Noël, où tous les interlocuteurs disent du mal de quelque chose, tu vois.
Ouais, on avait
ça peut vite dériver, ça, attention.
Avec des gens qui resteront non nommés, on avait pensé à je sais plus comment c'était nommé, mais c'était les cascodeurs bourrés ou un truc comme ça. où tu avais un mode relâché, des bouteilles de whisky, des objectifs de descente, etc. Heureusement, on n'a jamais mis ça en place, mais j'avais quand même sérieusement exploré l'idée. Mais en fait, il n'y a pas assez de temps. Et puis.
Et pas assez d'alcool.
Surtout que tes neurones, ils prennent un peu cher quand même.
En tout cas, si on envoyait un tweet, on cherche des volontaires pour un cascodeur bourré comme ça, je suis sûr qu'on serait plus de 4 autour de la table.
Ouais, c'est ça, il y aurait plus de monde, c'est ça que tu es en train de dire. Bon, écoute, merci encore. Nico.
Merci Nicolas.
Ouais, amuse-toi bien dans
ton. C'est un plaisir.
Et puis merci à tous.
Et à pignoyer.
Ciao. Yes. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthemes.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.